They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家，正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée ce matin par Perré Legras et mise en onde par Alexandre Dang. Nouvelle semaine, nouvelle série que nous allons consacrer aux forêts. Les paysages naturels époustouflants de l'Alberta, vaste province du sud-ouest canadien, ils se déployaient récemment sous les yeux des spectateurs de The Revenant avec Leonardo DiCaprio, oscarisé pour le rôle dans cette douloureuse mais épique épopée de la wilderness canadienne. Des paysages à couper le souffle qui apparaissaient alors comme miraculeusement immaculés, préservés des affres du temps et d'une exploitation forestière outrancière. Pourtant, eh bien ces derniers jours, l'Alberta fait la une de l'actualité pour une raison tout à fait inverse. Paysages et wilderness tout à coup menacés par les ravages de la bête, un incendie de forêt monstre qui a déjà dévasté plus de 200 000 hectares de forêt. Feu de forêt à Fort McMurray, domptez la bête.
Il y avait des flammes juste à côté de la route. On les voyait venir de Fort McMurray. C'est un peu ce qu'on ressent tous en ce moment. On a perdu notre maison, mais on tient toujours.
Peu importe le reste, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble.
On ne veut pas partir trop loin. Fort McMurray, c'est chez nous.
C'est vraiment stressant. On ne sait pas quand on va pouvoir revenir.
C'est un désastre. Les pompiers ne nous ont pas laissé le temps de prendre nos affaires. On a tout perdu.
On fait ce qu'on peut pour sécuriser les maisons. On n'a pas le choix. On ne peut pas s'en aller et regarder les maisons brûler. On ne peut pas, pas ici, pas dans notre ville. On va continuer à faire tout notre possible.
La bête, voilà, c'est le surnom que les pompiers dépêchés sur le terrain ont attribué à cet incendie qui a pour l'instant fait près de 100 000 déplacés, détruit près de 10% de cette ville de Fort McMurray, sans compter bien sûr les hectares de forêt. Un surnom immédiatement adopté par les médias, répété en anglais, en français, par les locaux, par les étrangers. Pourtant, il n'y a rien de si extraordinaire dans ces feux qui sont fréquents au Canada, un pays dont la forêt occupe, rappelons-le, près de la moitié du territoire, 9 fois la superficie de la France. Alors pourquoi cette frénésie médiatique? Peut-être parce que Fort McMurray, précisément, est le théâtre d'une ruée vers l'or noir et de l'opulence qui a emparé la région depuis la découverte des sables bitumineux. Nous allons tenter de brosser le portrait de cette ville, notamment tout à l'heure avec David Dufresne, une ville dans laquelle il a vécu plusieurs mois et dont il a tiré un très remarqué documentaire, Fort McMurray, qui avait été diffusé sur Arte récemment. On ira également du côté de l'Indonésie où la forêt boréale demeure largement vulnérable aux incendies, là aussi dantesque. 4 mois d'incendie de mai à septembre dernier, du fait notamment de la production de l'huile de palme et malgré une récente prise de conscience politique, on verra ça avec Romain Pirard. Mais dans un premier temps, donc, cap sur le Canada, quelles sont les causes de ce feu de forêt, que révèle sa gestion par les autorités mais aussi les réactions des riverains, des médias, de la manière dont les Canadiens aussi appréhendent cet espace forestier. Comment pense-t-on cette immensité forestière dans l'imaginaire collectif? Comment expliquer que l'exploitation forestière ne souffre, en dépit de politiques dites de développement durable, d'aucune injonction à une réelle modération? Et puis plus largement, les Canadiens ne se seraient-ils pas forgé une culture contre la nature? Et si oui, comment l'expliquer? C'est les questions qu'on va aborder tout de suite avec notre invité en duplex depuis Lille, c'est Éric Glon. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin, Éric Glon. Vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'Université de Lille, auteur notamment de cet ouvrage, Forêt et Société au Canada, Ressources durables et horreurs boréales, qui était paru aux presses universitaires du Septentrion. Vous connaissez très bien ces questions de ressources, de la place de ces ressources dans le développement des territoires, mais aussi de ce rapport entre les hommes et la nature. On verra ça ce matin. Alors, peut-être un mot sur, l'impact médiatique de tout ça, Éric Glon, parce que, évidemment, certes, les images de l'incendie incendies sont très impressionnantes. Certes, des milliers de personnes ont dû quitter leur maison sous les cendres incandescentes et les flammes qui venaient lécher les carrosseries des voitures. Mais après tout, les dégâts humains sont assez limités. Il y a deux personnes qui sont décédées dans un accident de la route lors de l'évacuation. Mais au regard de ce qui se passait, par exemple, de l'autre côté du monde au même moment, en Chine, avec ce glissement de terrain qui a provoqué la mort de 73 personnes et la disparition de 41 autres, c'est relativement modeste. Du point de vue des superficies parties en fumée, là encore, c'est un peu plus de 200 000 hectares. C'est-à-dire, c'est à peine la surface disparue lors de cet énorme incendie de 2012. Vous avez été surpris, vous, Éric Long, par le traitement médiatique de cette catastrophe. Est-ce que vous avez trouvé qu'on en a fait peut-être un petit peu trop? Et si oui, comment le comprendre?
Alors, je ne sais pas si on en a fait trop, mais effectivement, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi parle-t-on autant de Fort McMurray? J'étais un peu surpris dans un premier temps. Bon, on a eu beaucoup de témoignages de personnes évacuées. Ça reprend un petit peu ce qui est apparu au tout début de l'émission, hein, c'est-à-dire la forêt avec ses arbres qui se sont transformés en torchères et qui font très très peur. Les gens qui ont été évacués et qui l'ont fait vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. On ne voyait plus rien au-delà de 5 à 6 mètres devant les pare-chocs des voitures. Mais je me suis posé la question, et pourquoi en parle-t-on autant? Aujourd'hui, 240 000 hectares ont été détruits. Le feu, apparemment, n'est toujours pas complètement maîtrisé. Alors, je me suis posé des questions. Pourquoi autant d'articles? Pourquoi autant d'images là-dessus? Il y a plusieurs niveaux, hein. D'abord, le premier niveau, c'est que les feux de forêt font partie de la vie de la forêt. Dans le cas du Canada, bon, il y a quand même pratiquement entre 5 et 6 000 feux de forêt par an. C'est quelque chose qui, au-delà du nombre, peut concerner entre 4 et 5 millions d'hectares par an. Donc c'est quelque chose qui est aussi à l'image des immensités forestières canadiennes, quelque chose qu'on n'a pas chez nous. C'est à mettre en relation peut-être aussi, au-delà des incendies, avec les superficies qui sont, infestées chaque année par des maladies souvent liées aux insectes, pratiquement entre 15 et 20 millions d'hectares. Donc voilà, il y a un premier niveau qui est de se dire, bon ben voilà, la forêt elle vit, la forêt il y a des feux, il y a des tempêtes qui la blessent, qui laissent des cicatrices, mais la forêt se panse, les arbres sont capables aussi de s'adapter, hein, aux feux de forêt. Donc, ça, pour moi, ça a été une première réaction.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que vous sous-entendez, Éric Long, qu'on comprenne bien, c'est que finalement, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écosystémique, la catastrophe n'est pas si grave que ça. Finalement, c'est aussi un facteur de rajeunissement de la forêt, quelque part.
Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier un événementiel, qui est l'incendie de Fort McMurray, d'un certain nombre de conditions qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que, bah, vous l'avez dit dans votre introduction, on est quand même dans un pays où les forêts sont immenses, où les incendies de forêt couvrent des superficies qui sont, elles, immenses chaque année. Il y a des superficies immenses qui sont attaquées et infestées par les insectes chaque année. Après, la question qu'on peut se poser au-delà de ces chiffres, qui permettent une contextualisation en quelque sorte, c'est les conditions dans lesquelles ça peut survenir. Alors là, on va aller au-delà de ce que vous pouvez dire, c'est-à-dire vous avez avancé. Est-ce que finalement les feux de forêt régénèrent? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Comment est-ce qu'on peut interroger finalement ce qui se cache derrière cet incendie de forêt? Alors, quand on commence à s'interroger là-dessus, on s'aperçoit d'abord que l'incendie de Fort McMurray, même s'il atteint pratiquement aujourd'hui 240 000 hectares, est un incendie qui, naturellement, n'est pas le premier. Il y en a dans d'autres provinces, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta. En 2011, un incendie de forêt a détruit 700 000 hectares sans qu'il y ait une couverture médiatique aussi forte chez nous, du moins. Et c'est un incendie qui a duré pratiquement de mi-mai à mi-septembre. Vous voyez, à partir de plusieurs foyers. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces deux feux de forêt, dans ces deux cas, les conditions sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un hiver qui a tardé à arriver, des températures extrêmement douces très longtemps. Ça facilite naturellement les infestations des arbres, les maladies, et pourquoi pas d'ailleurs leur destruction et leur mort, comme ça arrive en Colombie-Britannique et en Alberta, puisque des milliers d'hectares sont infestés par le fameux dindoctrone du pin ponderosa. Et puis, il y a d'autres conditions qui sont venues se greffer aussi là-dessus. C'est qu'arrive le printemps, et au printemps, on voit des conditions si particulières se manifester, des températures anormalement élevées pour la saison, une période de sécheresse et des vents violents.
D'accord, alors, donc vous reliez l'événement finalement à la question du dérèglement climatique, là. Aussi, alors là, c'est ce qu'on voit en toile de fond.
Je fais un lien naturellement entre cet incendie et le changement climatique. Alors, je fais un lien aussi, peut-être, au-delà du changement climatique, qu'on ressent de façon extrêmement prégnante hein, dans ces latitudes assez septentrionales. Il y a donc des conditions qui amènent très régulièrement des feux de forêt. Celui de Fort McMurray a aussi sans doute pris beaucoup d'ampleur dans les médias parce que on est quand même dans une zone d'exploitation des sables bitumineux, donc ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais c'est bel et bien, dans ce que je veux dire, le changement climatique qui est en jeu, et derrière le changement climatique, la manière dont les Canadiens ont traité et considéré les forêts pendant des décennies.
Alors justement, venons-en sur la question de la manière dont on appréhende l'espace forestier et du point de vue notamment des responsables politiques. Le précédent Premier ministre Stephen Harper s'était engagé à développer des programmes qui étaient destinés normalement à prévenir la propagation d'incendies de forêt. Alors il y avait plusieurs choses qu'on avait prévu de faire, couper des arbres, planter des espèces peut-être moins inflammables pour faire des zones de coupe-feu. Ces programmes n'ont pas du tout été menés ?
Alors, je sais que dans les provinces, dans certaines provinces de l'Ouest, comme l'Alberta et la Colombie-Britannique, on a réalisé ce type d'aménagement. Mais c'est la plupart du temps insuffisant par rapport aux conditions que j'ai évoquées. Bon, je vais donner un exemple.
Je vous en prie.
Par rapport à l'infestation du dindoctrone du pin ponderosa, c'est-à-dire le pine beetle qui est très présent dans l'Ouest sur des milliers d'hectares, il est très difficile aujourd'hui de s'y opposer. C'est-à-dire que concrètement, il se propage. On a donc entrepris de faire des coupures, des sortes de buffer zones, des zones tampons sans arbres pour éviter sa propagation. Mais le pine beetle, naturellement, s'est propagé quand même. Et en même temps, on pensait que ça pourrait servir de clairière par feu. Ça, c'est à voir. L'autre élément qui me semble aussi très très important, c'est que les arbres qui sont malades et qui finissent par se dessécher, sans qu'on le perçoive très bien hein, dans ces immensités, on a parfois du mal à identifier clairement les zones, d'autant que les arbres mettent plusieurs années avant de mourir. Aujourd'hui, il y a des versants entiers qui sont couverts des forêts qui sont détruites, qui sont mortes. Et là, en Colombie-Britannique et en Alberta, on s'est dit, finalement, on peut se servir de cette maladie dont le traitement est extrêmement coûteux pour abattre plus d'arbres. Autrement dit, on a coupé plus. Encore que ça n'était le cas auparavant, ce qui a suscité naturellement beaucoup de réactions dans les ONG qui réclamaient notamment des études scientifiques beaucoup plus approfondies. Les universitaires également s'y sont mis pour mieux connaître ces méfaits. Or, il a été prouvé que la présence du dindoctrone ponderosa, elle était aussi liée quelque part à des changements en cours et notamment ce changement climatique et les conditions d'exploitation de la forêt. Alors, je pense que les mesures ponctuelles, parce que Stephen Harper était Premier ministre canadien, favorable à une politique forestière durable. Il a beaucoup tenté de ménager les lobbies des grandes compagnies qui, entre autres papetières, qui exploitent ces forêts. Et je ne pense pas, naturellement, qu'on ait eu beaucoup de changements ces dernières années.
Alors, justement, parce que vous avez raison de le dire, l'ancien Premier ministre Stephen Harper, il était très favorable, disons, en tout cas c'était un défenseur de l'industrie pétrolière, très clairement. Ouais. Son successeur, Justin Trudeau, l'est peut-être un tout petit peu moins. En tout cas, il était très attendu du côté de Fort McMurray. Et d'ailleurs, il a fait une visite, c'était vendredi dernier. Je voudrais que vous l'écoutiez.
Earlier today, I visited Fort McMurray with Premier Notley.
Plus tôt aujourd'hui, j'ai visité Fort McMurray avec le Premier ministre de l'Alberta, Notley, et les chefs des populations indigènes. C'était ma première visite sur place après le passage de l'incendie dans la ville. C'était très impressionnant. Nous avons pu constater les destructions extraordinaires causées par les feux, mais nous avons aussi pu voir que beaucoup de maisons et de commerces sont encore debout grâce aux efforts incroyables des pompiers. Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps la reconstruction prendra, quels moyens il faudra mobiliser, mais nous avons une meilleure appréciation de la dévastation. Les feux ont détruit environ 2400 structures et en ont endommagé 500. Et nous ne sommes qu'au début d'un travail important pour déterminer quand et comment nous pourrons commencer à reconstruire.
Voilà, la question de la reconstruction, Éric Long, le Premier ministre a donc fait savoir que le gouvernement fédéral versera des montants d'argent significatifs. Alors évidemment, c'est très difficile d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts. On a des estimations, on parle de quelque chose de l'ordre de 6 milliards de dollars, ce qui est évidemment colossal, à tel point qu'on se demande si finalement, économiquement, c'est viable de réinjecter des sommes pour reconstruire, encore plus dans un contexte évidemment où le prix du baril est très bas, où il faut par ailleurs penser l'après-pétrole pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La reconstruction, Éric Long.
En fait, d'abord, par rapport au petit reportage que vous avez passé, il y a trois éléments intéressants. Donc, il y a le Premier ministre, il y a une référence à la province, donc on a Justin Trudeau, donc qui représente le fédéral, il y a une référence à la première d'Alberta, donc on a le fédéral, on a le provincial. À propos des questions forestières, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le Canada est une fédération. L'État fédéral fixe les grandes lignes de la politique forestière, mais les provinces sont maîtresses chez elles de tout ce qui relève des méthodes d'exploitation, d'aménagement, puisque, il faut le savoir, au Canada, la forêt est d'abord une forêt publique qui relève des terres provinciales. Donc, ce que dit le Premier ministre canadien doit ensuite concrètement se mettre en place par le biais d'une sorte de négociation avec la province. C'est parfois très difficile de faire passer. Ça peut prendre très longtemps de faire passer un changement entre le fédéral et le provincial. Là, il y a un état d'urgence, et je pense qu'à cet état d'urgence, ils vont répondre très très vite. Mais quand vous voulez envisager un changement dans la politique forestière, c'est beaucoup plus délicat. La première d'Alberta est quelqu'un qui défend une approche extrêmement pragmatique et très marchande des ressources. Et comme Stephen Harper au niveau fédéral avant. Et ça pose quelque part la question de la difficulté dans un changement, plus que la reconstruction, dans un changement de fond dans ce pays-là et dans un pays comme le Canada.
Mais alors justement, cet incendie et les aides qui peuvent éventuellement être dégagées pour soutenir la région, d'une certaine manière, là, Trudeau dispose d'un moyen de pression pour obtenir des avancées, en tout cas pour obtenir de l'Alberta qu'il fasse des choix plus en accord avec le niveau fédéral.
Alors, tout à fait, complètement d'accord, mais en Alberta, on est plutôt sur la défense des intérêts autour de l'exploitation des ressources. Donc, en Alberta, les milieux d'affaires et les milieux politiques en place actuellement défendent l'exploitation telle qu'elle est des sables bitumineux et des forêts. Autrement dit, on y va avec cette position-là et donc on va échanger avec le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral peut peser en disant « attention, vous voyez tout ce qui se passe, c'est extrêmement dangereux, il faut changer les choses ». Mais le document qui ressortira par exemple de tout cela. Il peut d'abord traiter l'événement, hein, il faut reconstruire, il faut changer les choses, et sur le fond, il peut aussi être fortement imprégné des intérêts en place sur le plan économique. Les compagnies forestières ou les compagnies pétrolières n'ont pas forcément envie que ça change énormément. Donc on peut aboutir à un document en demi-teinte.
Mmh. Est-ce qu'on... Hein, je vous en prie.
C'est très compliqué de c'est alors il y a deux choses hein, qui sont peut-être à souligner aussi c'est qu'il y a une prise de conscience au Canada de plus en plus importante aussi bien dans les milieux académiques que non académiques du fait que on a poussé peut-être l'exploitation forestière trop loin dans ses excès productivistes et qu'il fallait changer les choses et cette impression-là, cette prise de conscience, elle gagne de plus en plus la population. Elle n'est pas le fait uniquement d'experts qui ont commencé à se dire « mais on peut plus pousser les choses dans ce sens ». Il y a aussi les ONG hein, environnementales qui sont, je rappelle quand même que Greenpeace est originaire de Vancouver. Il y a le Sierra Club aussi qui est très très important au Canada. Mais il y a d'autres petites ONG qui œuvrent pour faire pression vis-à-vis de ces milieux politiques et économiques pour que les choses changent, tout comme il y a
Et en même temps, on les entend pas beaucoup, Éric Glon. Vous avez raison de dire qu'effectivement, on les entend de plus en plus, mais quand même, globalement, c'est pas une voix qu'on entend très fort.
Vous voulez dire la voix de...
Des ONG, des personnes qui considèrent qu'on a eu peut-être une approche peut-être trop productiviste de la ressource forestière.
Alors, les médias en France ne se font pas beaucoup l'écho du rôle que ces gens peuvent avoir, alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus le cas. Hein. Donc, il y a régulièrement des universitaires qui travaillent d'ailleurs avec ces ONG, qui peuvent être contractualisés pour mener des missions d'expertise pour ces ONG. Et donc, elles apparaissent, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France.
Hein. Mais vous dites que l'opinion est en train peut-être de glisser de ce point de vue-là.
Oui. Je vais vous donner un exemple. On en a très peu parlé hein, en France, mais au Canada, ça a été quelque chose de très important. C'est arrivé, si mes souvenirs sont bons, au mois de février. Au mois de février, un accord entre des ONG, dont Greenpeace d'ailleurs, ou Sierra Club, oui pas Sierra League, mais Sierra Club, et également les autorités provinciales, de nombreuses compagnies forestières, alors que c'était un territoire de conflit perpétuel, eh bien, dans le long du Pacifique, on a abouti par un compromis à un accord pour protéger 3 millions d'hectares de forêts humides le long du Pacifique. Alors, y a quelque chose. On prend conscience que il y a des abus. On prend conscience qu'on a peut-être poussé les choses un peu loin, mais en même temps, ça fait tourner l'économie, tout ça. C'est-à-dire que, et comme on en prend conscience, on peut pas trop chambouler les intérêts économiques, mais en même temps, on se met à protéger, on essaye de pousser vers d'autres méthodes d'exploitation. C'est très pragmatique, il faut quand même rappeler que le Canada aujourd'hui coupe toujours à peu près 1 million d'hectares de forêts par an. C'est énorme, la filière bois dans son ensemble représente à peu près 850 000 emplois, qu'en valeur, probablement, en valeur, hein, j'ai bien dit, sans les exportations de l'ensemble de la filière bois, eh bien la balance commerciale canadienne serait déficitaire. Donc, c'est un pays qui a toujours façonné son économie et sa richesse en fonction d'une certaine vision des ressources. On ne l'efface pas du jour au lendemain. Ce qui vaut pour les forêts vaut aussi pour les sables bitumineux. Et donc, Fort McMurray est quelque part la quintessence de cette vision très productiviste que l'on a des ressources et que l'on a du mal à faire changer.
Voilà, bah on va alors, poursuivre justement sur cette question des intérêts économiques. Éric Glon, on est avec vous, vous êtes géographe, professeur à l'université de Lille, vous connaissez très bien l'Alberta, vous y alliez très régulièrement depuis longtemps. Feu de forêt à Fort McMurray, dompter la bête, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, dans une série consacrée cette semaine aux forêts.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Tout le monde vit sans compter, boit sans compter, joue sans compter. Ils dépensent leur argent. Que Dieu les bénisse pour ça. Il y a des millions de dollars qui circulent, des contrats qui sont signés ici. Je suis prêt à parier mon salaire là-dessus.
Des millions de dollars de contrats signés du côté de Fort McMurray, extrait d'un documentaire Fort McMoney, voté Jim Rogers, d'un journaliste qu'on va recevoir à présent qui s'appelle David Dufresne, qui est avec nous depuis Montréal, auteur donc d'un web documentaire, mais aussi d'un jeu vidéo, extrait de tout cela, qui s'appelle donc Fort McMoney, voté Jim Rogers. En 2011, vous quittez la France pour gagner le Canada, David Dufresne, vous vous installez avec votre famille et puis vous découvrez Fort McMurray. Vous allez rester plusieurs hivers, c'est une petite ville donc du nord canadien qui connaît un développement extraordinaire depuis quelques décennies, grâce notamment à ces stocks de sable bitumineux. Je le disais, vous dites Fort McMurray, c'est un bout du monde qui raconte notre monde à tous. Votre documentaire s'ouvre dans un camping, on est à l'entrée de la ville, c'est là que tout commence pour qui veut trouver des opportunités professionnelles et gagner de l'argent. On est abasourdi déjà de voir le prix qu'on paye pour louer une petite caravane. On est sur des loyers de 1500 euros, qui est probablement l'un des loyers les plus bas de la ville par ailleurs. C'est un signe, David Dufresne, parmi tant d'autres, qui nous permet de mesurer combien l'argent coule à flot à Fort McMurray. On peut gagner beaucoup d'argent assez vite, on a une impression absolument incroyable d'abondance financière.
Il y a l'abondance financière, c'est vrai, mais qu'il faut un tout petit peu relativiser. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui souffrent d'une disparité des salaires. C'est-à-dire que tant que vous travaillez pour l'industrie pétrolière, tout va bien. En revanche, si vous travaillez chez McDonald's, si vous êtes fonctionnaire, ça va plus. Parce que vous allez avoir des salaires qui sont à peu près les mêmes que sur le reste du territoire, sauf que le niveau de vie est tellement plus élevé. Par exemple, l'emplacement d'un camping, les maisons, la nourriture, parce que c'est à la fois l'offre et la demande, c'est le fait qu'on est au milieu de nulle part, donc pour faire venir des fruits, des légumes, du fromage, du lait, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et résultat, vous avez par exemple à la banque alimentaire des infirmières, des professeurs, des policiers qui viennent parce que leurs soldes de fonctionnaires ne sont pas suffisants. Mais c'est vrai que sinon, Fort McMurray, c'est Fort McMurray, c'est-à-dire c'est le lieu où on vient faire de l'argent, notamment tout ce qui découle du pétrole, c'est-à-dire les électriciens, les charpentiers, etc.
Alors, l'hypothèse que vous formulez dans votre documentaire, David Dufresne, c'est celle selon laquelle, finalement, l'industrie pétrolière est une entrave à la démocratie. Vous avez donc regardé comment les décisions sont prises au niveau local, au niveau de la ville, au niveau du conseil municipal. Vous êtes allé justement dans ce conseil, vous avez pu y rencontrer la mairesse qui s'appelle Melissa Blake. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment sont prises les décisions ? Il y a quelque chose qui apparaît extrêmement clairement dans votre documentaire, c'est ce manque ahurissant de transparence. On a l'impression que tout est tabou, qu'on ne peut pas poser les questions de telle ou telle manière, qu'il faut prendre beaucoup de gants. Et on dirait que finalement, tout le monde vit dans une forme d'insouciance pendant que les autres, en tout cas un certain nombre de personnes, se remplissent les poches et dévastent le paysage.
À l'exception notable de la Scandinavie, on note que effectivement la démocratie recule dès que le pétrole jaillit. Alors, dans des pays démocratiques comme le Canada, il ne s'agit pas évidemment de parler de dictature comme en Birmanie, comme en Afrique. On est quand même dans un pays démocratique, donc il y a une démocratie ou un semblant de démocratie qui est en place. Alors, la première chose, vous avez complètement raison, c'est la privatisation totale de l'espace public. À la fois, là, dès lors qu'on sort de l'unique autoroute qui mène, qui fait sortir de la ville, on est sur des territoires qui appartiennent à la couronne, c'est-à-dire a priori au peuple, anciennement d'ailleurs aux autochtones, passons, et qui aujourd'hui est totalement privatisé. Donc, comme c'est un territoire qui est à peu près grand comme la Hongrie, il faut imaginer qu'il est découpé et que à chaque balise, en fait, on a Shell, Total, Suncor, Syncrude, etc. C'est un territoire tellement gigantesque qu'en fait, les seuls qui sont capables de contrôler ce qui se passe, ce sont les entreprises privées elles-mêmes. Et donc, les associations ou même les institutions publiques chargées de veiller un petit peu à différentes choses doivent toujours demander l'autorisation 4 fois avant d'aller sur un site. Donc, vous imaginez bien que tout est nettoyé quand ils arrivent, etc. Pour la ville elle-même, alors là, c'est très simple. Vous avez une piscine Suncor, vous avez un gymnase Suncor, vous avez une salle de musculation Total Fitness Club. Partout où vous allez, si vous voulez, vous butez sur le pétrole. L'université enseigne les métiers du pétrole et subventionné en partie par les camions Caterpillar qui vont chercher le sable bitumineux, etc. Donc c'est une ville qui est fascinante parce que elle préfigure peut-être nos démocraties de demain, c'est-à-dire une reculade de la chose publique, d'un intérêt pour la chose publique, au profit des compagnies de pétrole. Et j'ajoute quelque chose d'important, c'est qu'en Alberta, qui est donc la province de Fort McMurray, c'est la seule province au Canada où il n'y a qu'une seule taxe, qui est la taxe fédérale. Il faut imaginer, en France, on aurait une TVA qui serait une TVA nationale, puis après, vous auriez une TVA par région. Bon, eh bien, là, il n'y a pas la TVA de la région. Pourquoi ? Parce que les compagnies de pétrole ont dit « laissez-nous faire, on va vous donner de l'argent, des droits pour exploiter le pétrole, ça va vous faire une manne financière ». Et donc le public, le citoyen n'a pas besoin de payer une petite taxe.
Grand seigneur, les entreprises, les compagnies pétrolières payent les impôts des citoyens, c'est ça que vous nous dites.
Et voilà, et en payant les impôts des citoyens d'une certaine manière, ouais. En tout cas des taxes indirectes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font une chose qui est mécanique, c'est que le public se désintéresse de la chose publique.
Je suis né ici. Mon père était dans l'armée. Quand j'étais petit, on disait qu'un jour, les sables bitumineux seraient comme la vallée de la Roure canadienne. L'avenir du Canada était au nord. Quand le site s'est développé, tout le monde était ravi. On s'est dit, enfin l'énergie mondiale vient puiser dans nos sables bitumineux. On va tous prospérer. Je pense que les grands manias du pétrole ont été autorisés à bâtir une zone pétrolière par le gouvernement qui dilapide nos ressources. À cause de cette mentalité de ruer vers l'or noir, tout à coup, il y a eu plein d'argent qui a circulé. Et les gens ont eu des tas d'occasions pour s'enrichir. Ils viennent ici et ils vivent comme des millionnaires de la ruée vers l'or. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être esclaves de l'industrie pétrolière, qui en retour les traite comme des mendiants.
Voilà, on entendait à l'instant la figure centrale de votre documentaire, Jim Rogers, un ancien trappeur qui lutte contre cette exploitation délirante du sable bitumineux, qui essaye d'acheter des terrains pour les extraire de l'exploitation. Il fait partie de ces rares personnes qui dénoncent ce développement de l'industrie pétrolière. Mais malheureusement, il n'est pas du tout entendu. Hein. Les gens ne s'intéressent pas du tout à ce message.
Non, les gens ne s'y intéressent pas. Alors, ce qui est notable aussi, c'est que lui, il va quand même avoir 10% des voix, c'est-à-dire à peu près 1000 personnes, et la mairesse. Mélissa Blais, qui est au demeurant quelqu'un de formidable, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, elle est élue avec 6000 voix. Et 6000 voix pour un budget qui est de 1 milliard de dollars, et 1 milliard de dollars, 95% de ce milliard de dollars provient de l'exploitation du pétrole, les taxes. Donc, vous voyez bien qu'elle n'a aucune marge de manœuvre. C'est le pétrole qui va dicter sa loi, d'autant plus que personne ne vote, en fait. C'est le plus bas taux de vote. Donc oui, la démocratie recule à mesure que le pétrole avance.
Mais est-ce que vous pensez que les Canadiens et les habitants, notamment de Fort McMurray, pourraient se réveiller ? Et est-ce que cette catastrophe qu'ils sont en train de vivre en ce moment, cet incendie gigantesque, pourrait les réveiller ? Parce que vous disiez, on l'a très bien compris, hein, voilà, en gros, cette industrie pétrolière, finalement, elle a étiolé au fur et à mesure cette démocratie. D'ailleurs, c'est une thèse qui avait été développée par un homme que vous avez rencontré et qu'on voit dans votre documentaire, qui est Andrew Nikiforuk, qui s'est intéressé aux conséquences politiques de l'exploitation pétrolière et sur lequel, d'ailleurs, il a écrit un livre de référence, L'énergie des esclaves. Il vous explique que le pétrole est une malédiction pour le pays, pour tous les pays, mais pour le Canada en particulier, que ça a brisé les institutions démocratiques, notamment en concentrant les pouvoirs. Et ce qu'il dit à propos du Canada, c'est que pour espérer que le pays cesse cette exploitation irraisonnée, il faudrait qu'il y ait un débat sur ce qu'il appelle l'âme canadienne. Parce que les Canadiens ont perdu leur âme d'une certaine manière, ils se sont oubliés.
Alors, voilà, on ne discute pas. L'économie d'abord, les emplois d'abord. Le dollar canadien est relativement indexé sur l'exploitation du pétrole. Donc, vous imaginez bien que, en gros, il n'y a absolument aucun intérêt à ce qu'un débat jaillisse autour de ces questions-là. Or, c'est une réflexion vraiment à très court terme, parce que de toute façon, on sait très bien que la facture écologique sera telle que personne ne la paiera. Et le climato-scepticisme est quand même relativement répandu. Et pourquoi ? Parce que le précédent gouvernement avait dans ses rangs des climato-sceptiques absolument importants, que la ministre de l'Alberta que j'avais rencontrée, qui était la ministre de l'Environnement, deviendra plus tard celle de l'Énergie. Et même là, on voit le gouvernement Trudeau, on le voit totalement fléchir par rapport à toutes ces questions-là, etc.
Vous pensez qu'on va reconstruire Fort McMurray ou vous pensez que la ville va finir comme dans votre jeu vidéo que vous avez réalisé, c'est-à-dire en ville fantôme?
Écoutez, seul le marché dictera l'avenir de Fort McMurray. Pourquoi Fort McMurray a explosé? C'est parce que le cours du pétrole a explosé. Donc, tant que c'était à $50, il n'y avait personne à Fort McMurray. Quand le baril de pétrole atteint les $100, là, ça devient rentable. Là, il y a des milliards de dollars qui sont investis pour aller exploiter le pétrole. Or, depuis un an, le pétrole chute. Donc, on avait déjà vu 30% de la population partir. Et d'une certaine manière, on peut très bien compter sur le cynisme des exploitants du pétrole pour dire, écoutez, on en profite, un dixième de la ville est parti en fumée, bah très bien, on va pas reconstruire, parce que de toute façon, on n'a plus besoin, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas rentable. Maintenant, si le prix du pétrole remonte, on reverra les mêmes erreurs. Je vois absolument pas pourquoi des leçons seraient tirées par les mêmes qui ont refusé de voir la réalité en face depuis 15 ans. Donc, c'est le marché, malheureusement, plus que la raison, qui vont décider de l'avenir. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera. C'est vraiment le cours du Brent qui va décider.
Encore une question, David Dufresne. Vous avez pu voir, vous, pendant des semaines, pendant des mois, les conséquences environnementales de tout ça. On parlait de facture écologique à l'instant. Vous avez vu cette facture écologique sur le paysage, sur les eaux des rivières polluées, sur la santé des gens. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement?
Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même ce village autochtone à 300 km au nord de Fort McMurray, qui s'appelle Fort Chipewyan, où les vents des usines, des fumées des usines et le cours de l'eau amènent une pollution épouvantable. Et ce refus à l'époque des institutions, notamment médicales, de savoir ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on envoyait plutôt des ethnologues et des sociologues pour voir si c'était parce que ils avaient changé leur mode de nourriture, s'ils étaient atteints de cancer, que d'envoyer des médecins pour essayer de comprendre pourquoi maintenant il y a des poissons qui naissent avec trois yeux ou sans nageoire. Si vous. Donc c'est hormis l'impact réel sur une partie de la population, je crois que c'est quand même le cynisme de ces entreprises qui, sur l'autoroute, restaurent 1 km² et mettent un arbre et un panneau publicitaire pour dire « Regardez le travail qu'on fait, un arbre et un panneau publicitaire. N'oubliez pas de remercier telle compagnie. » J'exagère un tout petit peu, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire, les compagnies de pétrole dans les pays démocratiques savent très bien que leur image est mauvaise, donc elles vont essayer de l'arranger, mais on est dans une forme de propagande. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a de pire, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est la destruction ou si c'est le fait qu'on veut vous faire croire que non, on s'occupe de vous. Ce n'est pas vrai.
Vous dites, David Dufresne, dans votre documentaire, que cette ville, elle est devenue le symbole de votre mauvaise conscience de pollueur. Est-ce que vous êtes parvenu à vous en libérer, justement, de cette mauvaise conscience et en quittant la ville, bien sûr?
Non, pas du tout, parce que, je vais vous dire, Fort McMurray est sans doute le projet qui m'a fait le plus voyager dans le monde. Alors, je suis contraint chaque année à donner de l'argent à des gens qui reboisent, mais je me sens pas bien. Hein. Je veux dire, honnêtement, je me sens pas bien avec ça. C'est-à-dire que je suis un peu comme ces compagnies de pétrole, et nous sommes tous comme ces compagnies de pétrole. C'est vraiment un choix de civilisation sur lequel nous devons tous réfléchir.
David Dufresne, donc, auteur de ce documentaire Fort McMurray, voté Jim Rogers, et également d'un jeu vidéo autour de Fort McMurray, justement. Fort McMurray, peut-être une ville qui préfigure de ce que seront peut-être nos démocraties de demain. Éric Long, je voudrais vous faire réagir à ce que vous venez d'entendre à propos de David Dufresne. C'est la loi du pétrole, finalement, hein, Fort McMurray, même si on l'entendait aussi dans la bouche de David Dufresne, il y a quand même quelques voix d'autochtones qui commencent à se faire entendre. Éric Long, réaction?
En fait, on est dans les excès d'une économie ressource, c'est-à-dire que le Canada présente cette particularité de beaucoup dépendre de l'exploitation des ressources naturelles. Donc ça fonctionne par cycle, je ne vais pas tous les reprendre, hein, les fourrures, le castor dont on utilisait les poils pour confectionner les chapeaux de forme, entre autres. Et aujourd'hui, ça va jusqu'au sable bitumineux, mais enfin, les excès de ce productivisme-là, très curieusement, ça revient de façon récurrente. N'oublions pas que le Canada a été le premier producteur d'amiante, qu'il y a des communautés aujourd'hui qui souffrent beaucoup des stigmates, hein, de cette exploitation. Et là, ça va être identique pour, apparemment, d'après ce que dit David Dufresne, pour, comment dire, les sables bitumineux. Alors, les forêts ont toujours, c'est le deuxième, ma deuxième remarque, hein, ont toujours constitué un pilier aussi de cette économie ressource avec ses excès. Hein, je voudrais préciser une chose, c'est que comme il le dit à propos du pétrole, la particularité au Canada, c'est que les forêts, j'insiste, sont publiques, elles dépendent des provinces. Mais les provinces ont en fait octroyé ces forêts à des grandes compagnies privées avec des contrats d'exploitation et d'aménagement sur des périodes longues, pratiquement un quart de siècle, et tacitement reconductibles, on va pas détailler. Et la plupart du temps, ces contrats d'exploitation et d'aménagement sont aux mains de très grandes compagnies. Il évoquait dans son cas et à propos de son reportage, les grandes compagnies pétrolières pour les sables bitumineux, on peut évoquer les grandes compagnies papetières, les plus grandes mondiales, Tembec, Weyerhaeuser ou autres, à propos des forêts publiques au Canada. Il se trouve que tout ça, dans la région de Fort McMurray, quelque part, se trouve un petit peu cristallisé. Là, il y a à la fois les stigmates de l'exploitation des sables bitumineux et les stigmates de l'exploitation forestière, où, je le rappelle, la coupe à blanc reste dominante malgré l'engagement du Canada pour une exploitation forestière durable. Et puis, comme dans le pétrole, dans les forêts, on trouve des populations qui ont été exclues, rejetées, et notamment les populations autochtones. Donc les populations autochtones n'ont plus accès à leurs terres traditionnelles, elles n'ont pas leur mot à dire la plupart du temps sur ce qui s'y passe là-bas, elles ont naturellement des difficultés d'accès qui sont croissantes finalement aux terres parce que tout ce qui a été dévolu à l'exploitation pétrolière prend de la place. Je crois que c'est 800 à 900, quelque chose comme ça, kilomètres carrés qui sont désormais dévolus à l'exploitation pétrolière. Les forêts qui ont été consenties aux grandes compagnies. Et donc, ces peuples autochtones en souffrent, parqués dans des réserves. J'ai lu un article absolument stupéfiant. Non seulement ils ont perdu la possibilité de trapper, de pratiquer le piégeage dans les forêts, de chasser dans les forêts, sauf qu'à négocier, mais l'eau est extrêmement polluée et on voit des autochtones aujourd'hui dont les logements sont ornés dans le salon d'une fontaine à eau.
Et malheureusement, malheureusement, ces autochtones, on entend très peu leur voix, même si vous le dites, hein, on les entend de plus en plus, mais ils sont relativement absents, et c'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans la voix de David Dufresne, ils sont relativement absents des processus de décision, ils ne participent pas d'une manière ou très peu ou trop peu à cette démocratie canadienne. On va s'intéresser peut-être à un autre pays, Éric Long, qui a dû faire face lui aussi à très important incendie, c'est l'Indonésie. L'année dernière, pendant plusieurs semaines, on a des feux qui avaient ravagé des dizaines de milliers d'hectares de forêt tropicale. Cap sur l'Indonésie.
L'incendie n'était pas si gros, mais les pompiers ne l'ont pas attaqué de la bonne manière.
On est frustrés parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que cette fumée va partir?
On est volontaire, on aide le gouvernement à arrêter les feux de forêt. On utilise notre propre équipement, mais on n'a pas assez de lances à incendie pour éteindre le feu.
Voilà l'incendie donc qui avait ravagé l'année dernière les forêts d'Indonésie. On va retrouver un nouvel invité depuis Jakarta, c'est Romain Pirard. Bonjour Romain Pirard.
Bonjour à vous.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Jakarta. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est même assez récurrent. Hein. Et pour cause, sont des incendies d'origine humaine, sont des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture sur brûlis pour dégager de l'espace pour les cultures et les pâturages au détriment de la forêt. Donc, derrière l'arbre des incendies, finalement, pour pas faire de mauvais jeu de mots, se cache la forêt de l'huile de palme. Faut rappeler que l'Indonésie, c'est le premier producteur d'huile de palme qu'on utilise dans beaucoup de produits de consommation courante. Et pour faire de l'huile de palme, on brûle les arbres et donc on fait des incendies très très régulièrement. L'Indonésie, elle est habituée depuis des années à ces feux de forêt. D'ailleurs, les journalistes locaux ne s'y intéressent quasiment plus. Sauf que, visiblement, avec les incendies de l'année dernière, qui ont duré plusieurs mois, on a senti quand même une prise de conscience de la part des responsables politiques, hein, Romain Pirard.
Bonjour, oui, je tiens à rectifier mon affiliation tout de suite, autrement mon employeur ne va pas être très content. Je suis au CIFOR, Centre International de Recherche sur les Forêts.
Voilà, c'est fait, au CIFOR, donc pardonnez-moi.
D'accord, non, très bien. Effectivement, bon, ça fait quelques années, je dois aussi signaler tout de suite que les feux de forêt sont récurrents en Indonésie. On a beaucoup parlé des feux de l'année dernière, mais ils interviennent chaque année. Et en particulier lors des années où le phénomène El Niño intervient. Comme ça a été le cas. Donc on avait eu les feux à la fin des années 90 qui n'avaient pas eu beaucoup d'impact politique comme vous le suggériez. Et les feux de l'année dernière, 2014-2015, en particulier 2015 effectivement, et qui vont se renouveler certainement cette année, et qui ont provoqué quand même beaucoup plus de réactions, et on sent qu'il y a une volonté politique quand même plus affirmée de combattre ce phénomène qui pose des problèmes très importants. Non seulement des problèmes environnementaux, puisqu'on a, disons, environ 3 millions d'hectares de terres qui ont été brûlés, dont à peu près, sans doute, 500 000 hectares de forêts en bonne condition.
Et derrière la volonté politique, est-ce qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises, et qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Alors, au niveau des mesures, bon, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais je voudrais souligner la décision qui a été prise par le président d'Indonésie de lancer un moratoire sur l'allocation de nouveaux permis pour développer aussi bien les plantations de palmiers à huile que les activités minières sur l'ensemble du pays. Cela fait suite à un autre moratoire qui avait été décidé il y a quelques années sur l'exploitation d'un certain nombre de forêts primaires et de forêts sur des zones de tourbière. Donc là, on est quand même un tournant, je pense, tout à fait important, d'autant plus que cette décision politique intervient à un moment où on a également des initiatives très fortes qui sont prises par les plus grands groupes privés, aussi bien actifs dans le développement des plantations de palmiers à huile et leur transformation que dans le développement des plantations forestières, en particulier pour approvisionner l'industrie papetière. Donc on a une sorte de convergence d'intérêts avec une prise de conscience très forte entre le secteur privé et le gouvernement. Bien entendu, cela ne veut pas dire que cela sera suivi d'effets immédiats sur le terrain, puisque, alors je ne sais pas si on aura suffisamment le temps de détailler, mais il y a un ensemble d'acteurs tout à fait hétérogènes qui sont présents sur les grandes îles telles que Sumatra et Bornéo, et qui vont d'un extrême, qui sont les grandes compagnies qui ont des concessions sur des dizaines de milliers d'hectares, à l'autre extrême, qui regroupe des petits planteurs, des villageois, qui sont engagés dans des activités également très intenses, bien qu'à plus petite échelle, mais dont l'accumulation a des effets très importants.
Oui, donc ce que vous voulez dire, Romain Pirard, c'est que il y a la volonté politique et puis il y a ensuite appliquer éventuellement les mesures qui ont été prises, ce qui peut s'avérer extrêmement difficile quand on réalise le poids de cette industrie, de ce secteur dans le pays. Hein. Je crois que c'était 19 milliards d'exportations pour l'année 2015. Ça fait vivre des millions de personnes. On parle de 24 millions d'emplois directs et indirects. Donc, il faut être assez prudent quand on veut mettre des nouvelles politiques en place. Il y a évidemment des risques économiques et sociaux colossaux derrière.
Il y a des risques très forts. Et il y a aussi une difficulté extraordinaire de contrôler des millions d'acteurs, puisque sur à peu près 10 millions d'hectares de plantations de palmiers à huile qui sont développées dans le pays, on a à peu près un petit moins de la moitié qui sont gérés par des petits planteurs et qui peuvent avoir 2-3 hectares dans les cas les plus faibles. Et donc, ce dont on s'est aperçu en faisant notre propre recherche sur une zone à Sumatra, c'est que il est très difficile de savoir qui est responsable de tous ces feux, puisque le problème, c'est qu'il y a les frontières sont assez mal connues en termes de propriété des terres, les limites des concessions sont assez mal connues, et on a vu que sur cette zone à Sumatra, à peu près un tiers des concessions pour le palmier à huile était occupé par des populations qui y développaient leurs propres activités. Et à l'inverse, on s'est aperçu qu'un grand nombre d'entreprises avaient développé leur propre plantation en dehors des concessions qui leur étaient allouées. Et donc, au final, si vous voulez, toutes les initiatives, tous les efforts qui sont fondés sur l'utilisation d'images satellitaires de manière à savoir qui est responsable de quoi est relativement peu effectif. Et cela est un problème assez fondamental lorsqu'on veut trouver des solutions et agir contre ce phénomène.
Donc il faut être assez modeste quand on mesure les difficultés et qu'on espère finalement des évolutions en la matière. En tout cas, un grand merci Romain Pirard d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé depuis Jakarta. J'indique que vous êtes donc rattaché au CIFOR, qui est le Center for International Forestry Research. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et un grand merci également à Eric Glon, qui était avec nous en duplex depuis Lille. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui sont à ses côtés.